Alors on va regarder dans la suite de Saint Luc. En se posant la question de savoir qu'ajoute à la théologie sur la Vierge, si vous voulez, au regard sur la Vierge Marie, la nativité et puis la présentation au temple et le recouvrement au temple. D'abord la nativité. Je crois que c'est très important de se poser la question: en quoi est-ce que le récit de ce que vivent Marie et Joseph, récit que ne nous donne pas Saint Matthieu, hein, Saint Matthieu se contente de parler des mages, qui a une portée symbolique qui est extrêmement grande pour lui, hein, qui est au fond la présence de l'humanité des nations qui vient déposer auprès du roi d'Israël et du Messie sa richesse. Mais ce qui n'est pas facile dans Saint Luc, c'est qu'au fond, et on va voir qu'heureusement la visitation et l'annonciation nous aident à y entrer, c'est le caractère des c'est le détail des événements. Hein, on va le lire. On ne va pas tout lire, mais au chapitre 2, début du chapitre 2 dans Saint Luc. Or donc, et là de nouveau, je ne vous lis pas le passage qui est avant, qui est le passage, qui est le cantique de Zacharie et à propos de Jean-Baptiste. Donc toujours le parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus, hein, qui structure les évangiles de l'enfance dans Saint-Luc. Or donc, en ces jours-là, parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or donc, comme ils étaient là, furent révolus les jours où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils, le premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui passaient les veilles de la nuit à veiller sur leurs troupeaux. Et l'ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit: « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est Christ et Seigneur. Et voici pour vous le signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre paix aux hommes qui ont sa faveur. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se disaient entre eux: « Passons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ayant vu, ils firent connaître la chose qui leur avait été dite de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé. Donc vous voyez, petit détail, hein, dans Saint Luc, Marie est toujours nommée Marie. Il ne dit pas la mère et l'enfant, c'est Marie. Donc c'est Marie dans sa personne qui est regardée. Alors ce qui est très impressionnant dans ce texte, hein, c'est qu'il mélange des choses historiques, des choses qui ont l'air des événements parfaitement secondaires, que Jésus naisse dans une mangeoire si vous voulez et qu'il n'y ait pas de place à l'hôtellerie, c'est assez secondaire historiquement. Des histoires de bergers qui sont dans les champs et des choses tout à fait célestes comme les anges. C'est une espèce de, alors pour le coup apparemment, de mélange si vous voulez, de choses parfaitement hétérogènes. Saint Luc n'a absolument pas peur, peut-être à cause du témoignage de Marie, de tout mélanger. C'est pas du tout homogène, si vous voulez, de parler simultanément de détails qui sont complètement secondaires apparemment d'un point de vue théologique, des choses parfaitement essentielles comme l'annonce des anges, vous voyez, et les événements et des faits d'histoire comme le recensement de Quirinius. ça nous est égal. Pour savoir que Marie est mère de Dieu, j'ai absolument pas besoin de tout ça. Vous voyez, la question est de savoir, est-ce que c'est Luc ou la Vierge Marie qui sombre, vous voyez, dans la chronique historique, et au fond, des petites choses de détail qui n'apportent rien du tout, si ce n'est pour alimenter la dévotion des gens pieux, vous voyez, ou bien est-ce que ça a une portée théologique ? Jusque-là, on n'a pas eu beaucoup de détails. Hein. C'est essentiellement un échange de paroles entre Marie. Il ne nous est pas raconté comment Marie a aidé Élisabeth. Là, on nous raconte qu'elle l'a emmailloté pour le mettre dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, qu'il y avait des bergers qui veillaient sur leur troupeau la nuit et qu'ils ont rencontré des anges qui leur ont dit ça. Ensuite, ils y sont allés. Enfin, vous voyez, on est... Et pour le coup, la piété chrétienne ne s'y est pas trompée, qui effectivement a fait de Noël une histoire qui est très... qui alimente facilement la dévotion de l'événement. Alors, quel signe... Surtout que dans Saint Jean, ça va être nettement plus vertical. Vous voyez, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Deux versets, un verset. Et le jour de Noël, c'est ce qu'on fait. La veille de Noël, on lit ça. Le jour de Noël, on lit, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Je crois que c'est... Même chose, hein, c'est à la lumière de ce qu'on a vu avant. Ça n'a évidemment aucun intérêt théologique si ça n'est pas en m'intéressant à qui est Marie. Oui, j'allais dire, ce récit des événements de la nativité ne présente pas, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut être intéressant théologiquement s'il n'a pas pour but de me faire entrer dans ce que vit Marie. Alors ce qui prolonge, hein, ce que montre déjà le début de l'évangile de Luc, qui jusque-là, j'allais dire, me fait accomplir tout ce parcours auprès d'elle, et auprès d'elle dans sa personne, pas dans sa fonction. Et ce que vit Marie dans les détails a l'air d'avoir autant d'importance que l'annonce des anges. Ce qui veut dire aussi, là aussi, hein, surtout si c'est Marie qui, j'allais dire, c'est par Marie qu'advient à Saint-Luc, vous voyez, ce récit des événements, ça veut dire que non seulement ce qui nous est manifesté dans le Magnificat, c'est-à-dire que toute la sagesse et j'allais dire, le dessein de Dieu à l'égard d'Israël, Marie le prend pour elle. Mais ça veut dire que tout ce qu'elle vit, tous les événements qu'elle vit, elle les prend aussi comme faisant partie de la sagesse de Dieu pour elle. Il ne nous est pas du tout dit comment elle l'interprète. Hein. Parce que vous avez des gens, dès qu'il leur arrive quelque chose, tout de suite ils interprètent. Oui, c'est le démon, ça c'est le bon Dieu, c'est parce que le Seigneur veut me dire ça, il fallait que je fasse ça, c'est pour ça que j'ai rencontré telle personne. Et puis au fond, il m'arrive telle chose parce que pour telle chose. Et tout événement devient occasion, oui, de sempiternelle réinterprétation des événements. Et puis, évidemment, à chaque fois, il faut reconstruire une cohérence différente, parce que quand il y a des événements qui contredisent ce qu'on avait pensé jusque-là, puis la plupart d'entre nous, si vous voulez, on ne fait pas très attention. Alors, on passe souvent d'une herméneutique excessive au désintérêt complet. Les événements, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est la vie théologale, les événements, c'est l'histoire. Oui, c'est très impressionnant de voir que, encore une fois, si le but... dans Saint-Luc et de nous faire entrer dans le regard de Marie, c'est qu'elle a simultanément un regard extrêmement précis sur l'événement et en même temps un regard qui essaye d'entrer dans la sagesse de Dieu sur l'événement. Donc Marie considère, encore une fois, si je le reçois d'elle, que non seulement le dessein de Dieu à travers le peuple d'Israël, mais jusqu'aux événements du type le recensement de Quirinius, fait partie de la sagesse de Dieu à son égard. Et le parallèle avec les bergers n'est pas inutile. Si vous voulez, le parallèle avec ceux qui, au fond, j'allais dire, ont une attitude d'enfant. C'est le propre de l'enfant de rejoindre Dieu dans l'événement, et de ne pas opérer d'abstraction et d'herméneutique abstraite entre l'événement et la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, dans sa vie familiale, l'événement est toujours le lieu de la rencontre de ses parents. C'est propre d'un enfant. Hein. Pour un enfant, tout ce qu'il vit est toujours fondamentalement une occasion de rapport ou de non-rapport avec ses parents. Donc c'est normal que pour l'enfant, tout événement soit quelque chose de la présence de Dieu. C'est pas difficile d'expliquer à un enfant que la mort de quelqu'un, c'est Dieu qui le rappelle à lui. Expliquer ça à des adultes, c'est nettement plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une espèce de chaîne d'interprétation scientifique, positiviste, humain, philosophique, théologique qui interfère. Alors, comme adulte, je ne peux plus lire les événements comme un enfant. Parce que l'enfant, j'allais dire, il le fait en dépendance de ses parents aussi. Si ses parents sont des, vous voyez, sont d'une superstition et d'un fétichisme aigu, il va évidemment interpréter les événements comme eux, c'était à tout travers. Mais ce qui est impressionnant, c'est que Marie a ce regard, encore une fois, simultanément pratique et contemplatif, qui fait que ce qui lui advient est reçu dans la lumière de Dieu. Et j'irais presque jusqu'à dire qu'en elle, la distinction entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut est parfaitement claire. Parce que le recensement de Quirinius, ce n'est pas la volonté de Dieu. Enfin, oui, Quirinius, ce n'est pas un prophète. Enfin, on ne sache pas que c'est un prophète. On ne sait pas encore même très bien qui c'est, d'ailleurs. Et on voit clairement que Marie est face à une permission, à quelque chose qui a l'air parfaitement accidentel et sans aucune signification par rapport au dessein d'Israël. Oui, ça contraste étonnamment avec le Magnificat, avec ce qui se passe jusque-là, qui est parfaitement selon l'ordre de la sagesse. Même le fait qu'elle aille s'occuper d'Élisabeth. Ça a encore un sens théologique immédiat, théologal immédiat. Le recensement de Quirinius, ça n'a aucun sens théologal. C'est les décrets arbitraires d'un administrateur casse-pied, c'est tout. Rien à voir. Obscur en plus, puisque je vous dis, on n'arrive pas à savoir quelque chose sur lui. Même chose, le fait qu'il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Dans un cas, si vous, c'est un arbitraire qui n'a aucune finalité négative. Hein. Dans l'autre cas, c'est un arbitraire qui a une finalité offensive. C'est-à-dire que, voilà, ils auraient pu l'accueillir voyant qu'elle attendait un enfant. Ils n'ont même pas fait l'effort de le faire. Vous voyez, j'allais dire, on est face au... Marie accueille aussi bien ce qui est en opposition, ce qui, à vue humaine, n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu, l'administration. Et ce qui s'oppose à la sagesse de Dieu, le non-accueil d'une jeune femme qui attend un enfant. Et ça fait partie pour elle, de manière immédiate, de la sagesse de Dieu. Ou si vous voulez, rien de ce qui lui advient, personnellement, n'est en dehors du regard de Dieu sur elle. C'est lent, c'est pas facile ça, de vivre ça. Ou si vous voulez, pour parler plus simplement, Marie est parfaitement docile à la providence de Dieu. Avec une, j'allais dire, un abandon qui est très clair, mais aussi avec une intelligence de la situation qui est tout aussi claire. Et qui contraste d'ailleurs, j'allais dire, la paix avec laquelle, enfin qui ressort de ce premier récit, hein, qui nous raconte le recensement et jusqu'au fait qu'ils sont refusés de l'hôtellerie, contraste évidemment avec le fait que les bergers, eux, sont effrayés de la venue des anges. Eux ont un train de retard, si vous voulez, pour comprendre de quoi il s'agit et ce qu'ils ont à faire. Et j'allais dire, c'est ce que Dieu confirme, hein, par la bouche des anges, bon, après coup, qui confirme précisément cette justesse du sens en Marie, du lien entre chacun de ses gestes, chacun de ses actes, chacun des moments de son existence et la présence de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas globalement présent chez elle. Il est présent dans tout ce qu'elle fait. C'est très simple, c'est ce que dit l'ange, il dit « Vous trouverez, et voici pour vous le signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Marie ne l'a pas emmailloté et couché dans une mangeoire pour que ça soit un signe. Vous voyez, c'est pas organisé dans sa tête en disant « Oui, comme c'est le signe auquel Dieu veut qu'on reconnaisse qu'il est là, je vais l'emmailloter et le coucher dans une mangeoire. » Mais c'est extrêmement impressionnant que Dieu prenne comme signe ce qui était simplement le geste d'une mère. Comme signe divin. Dire comme signe, c'est pas très significatif d'ailleurs, parce qu'un enfant couché dans une mangeoire, ça n'a rien d'extraordinaire. Le fait qu'il s'est emmailloté, d'ailleurs, n'ajoute rien. Enfin, vous voyez, c'est très bizarre qu'on nous raconte qu'il est emmailloté. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être emmailloté? Encore une fois, c'est le rapport, précisément. C'est capital. Pourquoi? Parce que ça fait partie essentielle du rapport entre la mère et l'enfant à sa naissance. Et que l'essentiel de ce qui est vécu au moment de Bethléem, c'est le rapport personnel d'une mère à l'égard de son enfant, qui est son Dieu, c'est tout. Qu'elle est là, l'alliance. L'alliance, elle n'est pas dans le fait que le Fils de Dieu nous a été donné. L'alliance, elle est dans le fait que le Fils de Dieu nous a été donné et qu'il a été reçu dans les mains d'une mère qui a emmailloté cet enfant, qui l'a mis dans une mangeoire. Alors, vous voyez, ça nous... Encore une fois, c'est ce que nous, on est... Parce qu'on n'est pas dans la... On est un peu dans l'abstraction. On a du mal. On est ou dans la considération théologique de l'incarnation et de Dieu qui, de toute éternité, avait décidé de nous donner son Fils. Ou alors, on est dans l'événement, vous voyez, et les potins, quoi. Le bavardage. C'est pas facile. Vous voyez, j'allais dire... Marie allie la profondeur de la contemplation avec le réalisme de l'incarnation. Et pour elle, le lien avec son Dieu passe tout autant à travers le fait qu'elle l'emmaillote qu'à travers, vous voyez, l'aspiration la plus profonde de son cœur. Il n'y a pas d'opposition. Ou si vous voulez, l'accomplissement de sa consécration à Dieu et le don d'elle-même à Dieu, ça passe par là. Marie n'a pas fait des grandes déclarations. C'est les anges qui font des grandes déclarations le soir de Bethléem, c'est pas elle. Chacun son rôle. Eux, ils sont mal placés pour emmailloter l'enfant, parce qu'ils n'ont pas de main. Mais par contre, faire des grandes déclarations, c'est leur boulot. Et évidemment, ce qui est encore plus impressionnant, c'est le fait que les anges eux-mêmes participent, à la joie de la naissance de cet enfant. Donc vous avez, si vous voulez, la simplicité, le concret de ce qui est vécu par Marie, intégrant à la fois... les choses qui n'ont apparemment rien à voir avec la sagesse de Dieu, le profane pur, l'administratif. Les choses qui sont contre la sagesse de Dieu, le fait qu'elle n'est pas accueillie, le détail de ce qu'elle vit, c'est associé immédiatement à l'annonce la plus grande qu'attend l'humanité, qui est la venue du Sauveur, et la joie des anges. Vous voyez, tous les niveaux sont présents. Ce qui nous montre qu'au fond, très simplement, on est au cœur de ce qu'il y a d'essentiel dans l'humanité, dans le dessein de Dieu sur l'humanité. Mais on ne l'est pas sous forme, c'est pas comme sur le mont Sinaï, si vous voulez. Ça contraste un peu. Pourquoi? Parce que ça passe par le lien personnel entre Marie et son enfant. Et affirmer que Marie est mère de Dieu ne veut pas simplement dire qu'elle a mis au monde celui qui est le Fils de Dieu, mais qu'elle a vécu dans son cœur de mère un lien personnel avec celui qui était son Dieu. C'est pas là du tout la même chose. Si vous voulez, que son lien d'adoration, d'abandon, de dépendance et de soif contemplative à l'égard de Dieu est passé par les gestes et le cœur d'une mère à l'égard de son enfant. C'est ça la vie chrétienne. Ce qu'on a, nous, un peu de mal, évidemment. Parce que pour nous, quand on fait quelque chose, c'est par application des grands principes. Donc il y a des grands principes chrétiens. Aimez-vous les uns les autres, adorez votre Dieu, tout ce que vous voudrez. Et ensuite, on fait les choses pour appliquer ce que Dieu nous a dit de faire. Et comme on les applique toujours mal, on est toujours malheureux de ne pas avoir fait bien selon les préceptes qu'on nous a donnés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, la question, c'était, si vous voulez, d'ajuster correctement l'enfant pour qu'il soit bien emmailloté. Ça ne faisait pas nombre avec avec l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout... L'ange ne lui a pas donné des consignes. C'est par le cœur de l'homme et l'engagement... de ce cœur, de la manière la plus personnelle et la plus concrète qui soit, que se réalise la nouvelle alliance. C'est ça ce que ça veut dire, que c'est un mystère d'incarnation. Le Christ s'est incarné pour être l'objet de l'attention de Marie, c'est tout. Dans le temps de la naissance. Le Christ s'est fait petit enfant pour pouvoir recevoir cet amour à travers un geste humain. Ce qui nous fait d'ailleurs déjà comprendre que le propre de la vocation chrétienne, c'est que tout acte peut être accompli pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de Dieu, si vous voulez, où c'est des actes tellement héroïques et magnifiques qu'au fond, ça en resplendit de lumière. mais des actes qui sont attribués à Dieu, dont Dieu est l'objet premier, le sujet premier. C'est ce que Marie va vivre à Nazareth. Tous ses actes et tous ses gestes vont être immédiatement faits pour Jésus, c'est tout. Pas de manière morale, de manière concrète. Quand vous avez un enfant, l'emmailloter, ce n'est pas une question morale, c'est une question concrète. Même d'éduquer un enfant, ce n'est pas d'abord une question morale, c'est une question d'intelligence, c'est tout. On l'éduque pourquoi ? Parce que c'est ce que l'enfant réclame. Ce n'est pas parce que moralement, c'est bien de le faire. C'est bien parce que c'est humain. Ce n'est pas humain parce que c'est bien. Vous voyez, je crois que c'est très important, je vous dis, de prendre le temps de voir comment encore une fois, la Vierge Marie me montre de manière juste ce que c'est qu'une vie chrétienne. C'est la différence avec les apôtres, si vous voulez. Les apôtres, eux, ils auront besoin de 3 ans d'explication, plus de quelques catastrophes, pour commencer à s'apercevoir que, en fait, il n'y a pas 2 choses. La spéculation abstraite et théologique et l'engagement concret. C'est le drame de tous les apôtres. Hein. S'ils n'étaient pas là le vendredi saint, c'est à cause de ça. Parce qu'ils étaient tous d'accord dans leur tête, mais ils n'avaient pas du tout vu les conséquences pratiques. Alors que les saintes femmes, elles n'avaient peut-être pas tout compris théologiquement, ni cherchaient à tout comprendre d'ailleurs, mais elles étaient là. C'est d'ailleurs hein, ce que nous précise de manière encore plus forte la fin du texte. Quand il est dit, alors vous remarquez que c'est très beau parce qu'on dit à propos des bergers, ils vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né. Il y a un ordre. Quand il nous est dit au verset 19, quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces choses et les repassant dans son cœur. Toutes ces choses ou toutes ces paroles, hein, c'est le même mot qui veut dire à la fois parole et chose. C'est-à-dire que Marie conserve les événements dans son cœur. Mais pas les, vous voyez, les événements au sens du réalisme humain des événements. Et donc elle découvre que c'est dans l'événement, dans la rencontre personnelle avec son enfant, que se révèle à elle la sagesse de Dieu. La révélation du Christ ne se donne aux chrétiens qu'à travers l'humanité de Jésus et qu'à travers la vie de Jésus. Si vous voulez, le catéchisme de l'Église catholique, ça n'est que la formulation abstraite de ce qui m'est montré réellement dans l'Évangile. C'est-à-dire que lire le catéchisme sans avoir lu l'Évangile, c'est une perte de temps sèche, c'est même dangereux. Parce que vous enregistrez l'abstraction sans avoir vu d'où elle vient. Ça peut même vous empêcher de lire l'Évangile intelligemment. Vous avez plein de chrétiens qui savent le credo par cœur, mais qui n'ont jamais lu l'Évangile tout seul. Ils savent ce qu'il faut croire. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ça, ils le savent parce qu'on le leur a dit. Mais ils n'ont jamais remarqué la manière dont Jésus agit. Ça ne les intéresse pas, Jésus. Ça les intéresse qu'il soit le Fils de Dieu. Mais ils ne se sont jamais intéressés à lui. On peut savoir qui est quelqu'un dans l'ordre de sa fonction sans jamais s'être intéressé à sa personne. Mais je suis chrétien que quand je commence à m'intéresser à sa personne, ça c'est clair. Avant, je ne suis pas encore chrétien. Et donc je crois que c'est extrêmement, si vous voulez, important de voir que Marie nous révèle comment l'accueil de la révélation passe par le réalisme à l'égard de la personne humaine. Si je ne m'intéresse pas à l'homme, je ne pourrai pas recevoir la révélation chrétienne. Que dit Jean-Paul II quand il dit « L'homme est le chemin de l'Église ». Je ne peux pas accueillir le Christ si je ne m'intéresse pas à l'homme. Puisque c'est précisément à travers le langage qu'est l'homme que Dieu me parle. Et non pas que je m'intéresse à l'homme sous forme de symbolisme ou d'allégorie, vous voyez, parce que comme si l'homme c'était une espèce de symbolisme qui allait me permettre de comprendre Dieu, parce que Jésus c'était pas un symbole. Mais que je m'intéresse à l'homme parce que c'est dans l'homme que m'est révélé Jésus. Et que si je ne m'intéresse pas à l'homme, à la personne ou personne, comme personne, pas comme, caractéristique psychologique, mais si je ne m'intéresse pas à l'homme pour lui-même, je ne pourrais pas m'intéresser à Jésus dans son humanité, donc je ne pourrais pas recevoir le mystère de sa divinité. C'est très simple. Par mode d'abstraction, je pourrais, si vous voulez, accumuler ce que me dit l'Église et dire que je suis d'accord, sans avoir d'ailleurs les moyens de savoir si c'est vrai. Parce que si j'étais né chez les protestants, j'aurais dit la même chose. Chez les témoins de Jéhovah aussi, sans doute. Mais je crois que c'est très très important de voir que le chemin par lequel passe la révélation, c'est le Christ homme. Il n'est pas Dieu derrière, si vous voulez. Dieu n'est pas derrière l'homme en Jésus. Cet homme, c'est Dieu. Sinon, ça n'a aucun intérêt de nous raconter qu'il est emmailloté. À moins que l'emmaillotement ait une signification symbolique et allégorique. Ce qu'ont fait d'ailleurs les pères de l'Église en montrant comment il était emmailloté. Non, c'est la mangeoire. Ou qu'il est emmailloté comme dans le linceul. Mais précisément, ça, c'est secondaire. Marie, elle l'a pas emmailloté pour que ça fasse comme dans le linceul. Et elle l'a pas mis dans une crèche pour que ça fasse comme dans le tombeau. Qu'après coup, si vous voulez, on s'en sorte logiquement. Oui, mais c'est pas la raison propre, ça c'est une raison seconde. Faut pas tout confondre. Et dire que la grotte c'est comme le tombeau aussi, vous voyez, je veux dire, d'abord c'est pas une grotte, on nous a pas dit que c'était une grotte, Eden. Et puis je veux dire, c'est très bien, après coup. Mais c'est pas ça le sens premier, c'est pas ça le sens littéral, c'est pas ça que Marie a vécu. Et elle repassait pas dans son cœur, vous voyez, la comparaison entre le tombeau et la mangeoire, non. Ce qui veut pas dire que c'est faux. Mais il faut bien situer le niveau de l'allégorie, qui est toujours second, et le niveau de la réalité. Et je crois que c'est capital de voir qu'encore une fois, la théologie, c'est ça. C'est Marie gardait avec soin toutes ces choses et les repassait dans son cœur. La coopération de mon intelligence à la révélation, c'est-à-dire l'exercice de la foi, ne peut se faire de manière réaliste, chrétienne, que de cette manière-là. C'est-à-dire en repassant les événements dans mon cœur. Encore faut-il qu'ils m'intéressent, les événements. Et les événements ne m'intéresseront pas si les personnes ne m'intéressent pas. Alors, les événements, je n'y accède pas par l'écriture sous forme, si vous voulez, de récits journalistiques. Ce sont même les récits journalistiques qui ne me permettent pas d'arriver à l'événement. Alors. Parce qu'eux-mêmes, ils sont toujours une interprétation de l'événement. Mais ce que je suis sûr, c'est que l'écriture me donne accès à l'événement selon la manière dont Dieu veut me le révéler. Ça, j'en suis certain. Donc, je n'ai pas à prendre ce que me raconte l'écriture comme la description journalistique de ce qui s'est passé, mais comme ce que je dois accueillir et regarder de l'événement dans sa réalité humaine pour entrer dans ce que Dieu me révèle. Vous relisez tout ce que les papes Paul VI et Jean-Paul II ont écrit depuis Vatican II et vous verrez qu'ils ne disent que ça. C'est-à-dire que présentement, c'est cet intérêt pour l'homme, c'est cet amour de l'homme, qui est d'ailleurs l'amour de Dieu pour l'homme, qui est le chemin par lequel je peux entrer de manière réaliste dans la véritable découverte du Christ et du mystère de l'Église, et du mystère de la charité fraternelle. Parce que vous comprenez, si j'aime mes frères sans m'intéresser à la personne humaine, c'est mal parti. Parce que je les aime simplement parce qu'on m'a dit de le faire. Ce qui, évidemment, au mieux, je les respecte dans ce cas-là. Ce qui est des fois une manière polie de les laisser complètement tomber. Et pour nous faire comprendre encore plus, vous voyez, j'allais dire la différence ou le réalisme avec lequel Marie vit, on a les bergers. Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces choses, les repassant dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon qu'il leur avait été annoncé. Donc vous voyez l'attitude très différente. Des bergers qui, eux, glorifient et louent Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Selon ce qui leur avait été annoncé. C'est-à-dire qu'ils sont très heureux parce que ce qu'ils ont vu, ça correspond à ce qu'on leur avait dit. Et du coup, ils louent Dieu que ce qu'on leur a dit, ça correspond à la réalité. Ce qui est légitime, hein. Mais vous voyez tout le contraste avec Marie. Eux louent Dieu pour la grandeur de ses merveilles, mais n'en sont pas encore à entrer dans son mystère. Alors, encore une fois, l'un est parfaitement légitime par rapport à l'autre, mais le premier reste au seuil de la nouvelle alliance et le deuxième y entre. C'est parfaitement légitime de louer Dieu comme d'adhérer à ce que dit l'Église. C'est parfaitement légitime, ça n'a rien d'illégitime. Mais ce n'est pas encore la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle commence par le fait que mes capacités d'intérêt, d'amour et d'intelligence à l'égard de la personne humaine se tournent vers le Christ, c'est tout. Et la foi, elle est faite, la grâce, elle est faite pour ça. Elle n'est même pas d'abord faite, la grâce, pour que, si vous voulez, je vive d'une oraison mystique du cinquième degré. Parce que je ne sais jamais si mon oraison mystique du cinquième degré, elle est imaginative ou réaliste, si je ne commence pas par passer par mon intérêt à l'égard du Christ, dans son humanité. C'est pour ça que toute la tradition chrétienne, elle est enracinée dans la parole de Dieu. Parce que celui qui prétend dépasser la parole de Dieu, on ne sait jamais s'il est dans la verdure ou dans la réalité. C'est pas parce qu'il a les yeux qui montent au ciel et qui décollent de 50 cm que c'est divin. Non mais relisez Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, qui sont les docteurs mystiques de l'Église, ils sont extrêmement clairs là-dessus. Alors, c'est évident que la parole de Dieu n'est pas le seul lieu de ma vie chrétienne. Mais c'est le lieu, et c'est ce que me montre Marie, c'est que son chemin à elle, ça a été de passer par l'humanité de Jésus pour entrer dans son mystère. Elle n'a jamais prétendu passer par autre chose, vous voyez, accéder directement au mystère de la Sainte Trinité en soi. Et je crois que c'est très important de voir que ça fait partie tout autant de son mystère de mère de Dieu que d'affirmer qu'elle l'est. La question, ce n'est pas simplement savoir si Marie est mère de Dieu, mais comment elle exerce cette maternité divine. Eh bien, elle l'exerce en acceptant que tous ses actes humains à l'égard du Christ s'achèvent. Alors, c'est ce qu'elle vit dans son âme d'abord, puis dans son corps, et puis ensuite dans toute son existence auprès de Jésus. Donc, vous voyez, vous comprenez mieux à ce moment-là pourquoi les pères ont insisté en nous disant « Marie a d'abord conçu dans son cœur avant de concevoir dans sa chair. » Donc, Marie n'est pas mère de Dieu physiquement. Marie, elle est mère de Dieu parce qu'elle l'est personnellement avant de l'être dans son corps. C'est déjà vrai humainement. Une mère peut être mère physiquement sans l'être personnellement. C'est qu'elle elle attend un enfant parce que ça lui fait plaisir. La question est de savoir si elle attend un enfant qui est un don de Dieu et qui est appelé à être une personne humaine. C'est pas du tout la même chose, la même attitude intérieure. Dans un cas, si on est attentif à un phénomène biologique très particulier, dans un autre cas, on est attentif à quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur de ce phénomène biologique. On n'est pas mère d'une manière, on n'est pas mère simplement biologiquement. Mais on l'est d'une manière personnelle. Et si on l'est biologiquement, c'est pour l'être d'une manière personnelle. Ce que Marie a compris à l'égard de Jésus. Évidemment, ça n'était pas excessif, enfin je présume que ça n'était pas excessivement difficile d'être mère de Jésus biologiquement. Ça l'était infiniment personnellement. C'est pas facile d'être mère de son propre créateur. Point de vue personnel, c'est assez déroutant, si vous voulez, comme. Mais c'est ça, c'est ça Marie. Je ne sais pas autre chose. Hein. C'est pas abstrait. Hein. Quand une mère attend son enfant, c'est concret. Et puis c'est pas objet de délibération intérieure. Hein. C'est objet de quelque chose de très concret. Et c'est très beau, vous voyez, de voir que c'est comme ça que Marie a appris à entrer dans le mystère du Christ. Parce qu'apprendre à rejoindre son Créateur dans l'enfant qu'on porte en soi, c'est assez réaliste comme apprentissage. C'est ça la vie chrétienne. C'est vrai, nos frères ne sont pas Jésus, mais ils sont enfants de Dieu. Et ils le sont tout aussi réellement par le baptême, même s'ils le sont selon leur vie et pas selon leur être, que Jésus. Nous sommes des enfants par adoption, ce qui ne veut pas dire qu'on est des enfants de deuxième zone, parce que par adoption, ça ne diminue pas, ça veut simplement dire qu'on n'est pas Dieu dans notre être. Mais nos frères sont tout autant enfants de Dieu, vous voyez, dans leur cœur, dans la part de leur cœur qui accueille la grâce de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Évidemment, c'est plus difficile de reconnaître l'enfant de Dieu dans notre frère que de reconnaître son Créateur en Jésus. Bon, enfin, c'était déjà pas très commode quand même. Petit enfant, c'est pas très facile de découvrir le Créateur. Mais c'est en entrant dans cette attitude de Marie à l'égard de son enfant que je comprends mieux l'attitude que j'ai à avoir, non seulement à l'égard du Christ à travers l'Écriture, l'attitude que j'ai à avoir par rapport au Christ à travers les sacrements. C'est presque plus facile de découvrir que le corps ressuscité de Jésus m'est donné dans l'Eucharistie que de découvrir que l'enfant que Marie portait, c'était son Créateur. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, si vous voulez. Ou bien, l'Eucharistie, je veux dire, ou bien c'est rien du tout, ou bien c'est Jésus. Oui, il n'y a pas de demi-mesure, c'est ce que dit saint Thomas. Ou bien c'est du pain, à ce moment-là, vous perdez votre temps et vous êtes le plus imbécile des hommes, ou bien c'est le corps de Jésus ressuscité. Mais on ne passe pas une heure devant un bout de pain. Donc je veux dire, c'est que le sacrement m'oblige à la foi. Vous voyez, le sacrement m'oblige à la foi. C'est plus difficile dans la charité ou c'est plus difficile pour Marie à l'égard de l'enfant Jésus. Parce que son enfant, c'était un enfant. Ça ne l'obligeait pas à la foi. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. La foi est plus gratuite en Marie à l'égard de Jésus qu'en nous à l'égard de l'Eucharistie. J'allais presque, il y a une contrainte à la foi dans l'Eucharistie. Il y a un tel décalage entre la pauvreté du signe et la réalité du mystère que c'est clair qu'il n'y a que Dieu pour inventer des choses pareilles. Enfin, c'est clair. Si, quand on voit bien que c'est clair, je veux dire, c'est... Humainement, il aurait fallu être complètement bête pour inventer des vous voyez, pour vouloir falsifier les gens avec des choses pareilles. Alors qu'effectivement, je veux dire, à l'égard de son enfant, il n'y avait pas de signe qu'il était le fils de Dieu. Puisqu'elle est bien heureuse dans sa foi, Dieu ne lui a pas, vous voyez, vraiment, l'a laissé être bien heureuse dans sa foi. Alors, le deuxième passage, c'est la présentation au temple. Petite parenthèse, le chapelet, je peux le vivre sous cette forme-là. Il y a deux manières de vivre le chapelet. Je peux vivre le chapelet sous forme allégorique, mais la manière dont Grignon de Montfort parle du chapelet, c'est celle-là. C'est-à-dire que j'apprends à entrer dans la réalité de la foi chrétienne en suivant Marie dans ce qu'elle vit. Pas imaginativement, mais appuyé sur l'écriture. Ce qu'on fait là, en lisant la parole de Dieu, ça peut se faire en récitant les mystères. C'est la même chose. C'est pour comprendre comment la pédagogie du chapelet dans l'Église s'enracine de manière extrêmement profonde dans le réalisme de la pédagogie de Dieu à notre égard, auprès de la Vierge Marie. C'est pas du tout simplement une dévotion. C'est une dévotion parce que c'est pas obligatoire. Mais c'est pas du tout second. Enfin, oui, je veux dire, c'est parfaitement unique à l'intérieur de ce qu'on appelle, de ce qui n'est pas obligatoire. C'est pas aussi important que la parole de Dieu, mais presque. La parole de Dieu, c'est pas une dévotion, c'est obligatoire. Mais si je comprends en quoi la parole de Dieu est obligatoire, à ce moment-là, je comprends instantanément l'intérêt du chapelet. C'est plus important le chapelet que le credo. Oui, parce que le chapelet, je veux dire, c'est le credo, mais vécu en Marie à travers les événements concrets. Si je le vis de manière contemplative, si c'est purement imaginatif, c'est sûr qu'il vaut mieux le credo. Parce que là, on n'imagine pas grand-chose. Ça ne suscite pas beaucoup l'imaginaire, le credo. Oui. 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 Oui, c'est vrai. Mais c'est l'avantage de la parole de Dieu, c'est que c'est pas des images d'abord qui, dans le Nouveau Testament. Hein, c'est pas d'abord des images qui me sont données. Pourquoi? Parce que les mots font immédiatement référence à une expérience personnelle. Donc un, j'ai pas à m'imaginer la scène, mais à voir ce qui m'est dit. Donc j'ai à écouter ce que Dieu me dit et pas à me représenter ce qu'il me raconte. Parce qu'en fait, il ne me raconte pas des choses dans l'Évangile. Il me dit, il me parle de Jésus. Et donc, ce que j'ai, c'est précisément la parole de Dieu est un lieu dans lequel je n'ai pas rajouté de l'imaginaire. Mais j'ai précisément à me laisser faire par la parole de Dieu qui implique un côté affectif et aussi un côté d'image. Mais d'images qui me sont données par Dieu. Donc, qui sont beaucoup moins dangereuses que celles que je vais construire moi-même. J'allais presque dire, si vous voulez, c'est garanti. C'est... La parole de Dieu, elle a été fabriquée pour ça. Pour ça, il ne faut pas que j'en ai peur. Si j'y rajoute des choses, si vous voulez, si je me fais de la parole de Dieu à ma sauce, en re-racontant l'Évangile autrement que ça m'est donné, c'est sûr que c'est plus dangereux. Mais la parole de Dieu, c'est son avantage. C'est pour ça qu'on cherche à la traduire le plus fidèlement possible. C'est que, j'allais dire, Dieu a aidé chacun des écrivains dans son imagination pour qu'elle soit instrument de l'œuvre de Dieu et de la communication de la sagesse. Donc je n'ai jamais à avoir peur de lire suffisamment, enfin, de trop lire la parole de Dieu. De cogiter imaginativement dessus, oui, mais de la lire, non. Je ne lirai jamais, je n'écouterai jamais assez Dieu me parler dans sa parole. Ça d'ailleurs, parce que c'est ce que dit le père Philippe, quand on est un peu dans la verdure à l'oraison, le meilleur moyen c'est de revenir à la parole de Dieu. C'est même encore mieux que de lire de la spiritualité méditative. Ça peut aider, si vous voulez, les méditations spirituelles, mais c'est encore mieux la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est le plus immédiat. Parce que la méditation spirituelle, elle est faite pour me faire lire la parole de Dieu, qui, elle, va me conduire à Jésus. La présentation de Jésus au temple. Donc là, comme la circoncision, hein, au verset 21, « Et lorsque furent révolus les 8 jours pour sa circoncision, on lui donna le nom de Jésus. » Celui qui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu. Et lorsque furent révolus les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Et pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Et cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit était sur lui. Et il avait été averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour faire à son égard selon la coutume imposée par la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant, maintenant, ô maître, tu peux congédier ton esclave selon ta parole en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révélera aux nations et gloire de ton peuple Israël. Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, vois, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que de bien des cœurs soient révélés les raisonnements. Et il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, rendant un culte jour et nuit par des jeûnes et des prières. Et survenant à l'heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient le rachat de Jérusalem. Et quand ils eurent achevé tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville, Nazareth. Quant à l'enfant, il croissait et se fortifiait, se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc vous voyez que là, on entre dans une nouvelle initiative de la part de Marie et de Joseph, qui est l'obéissance à la loi, qui n'apparaît pas jusque-là dans Luc. Par la circoncision et par la présentation au temple. C'est-à-dire que ce que nous est révélé, c'est qu'au fond, Marie et Joseph, j'allais dire, en l'absence d'un signe particulier de Dieu, ou en l'absence d'une lumière particulière, obéissent selon la loi. Et c'est le texte qu'on lisait tout à l'heure des Galates, où Paul associe le fait que Jésus est né d'une femme et qu'il a été soumis à la loi. Cette soumission à la loi, c'est le premier moment dans Saint-Luc où il nous est montré l'accomplissement de l'ancienne alliance par Jésus. Jusque-là, il nous a été montré le contraste entre l'ancienne alliance et Jésus. Et comment, j'allais dire, Marie était associée à cette différence entre l'ancienne alliance et Jésus. Ou comment Jean-Baptiste était à Zacharie, Zacharie était à Jean-Baptiste, ce que Marie était à Jésus. Donc comme Jean-Baptiste est associé à l'avènement de Jean-Baptiste, comme Zacharie est associé à l'avènement de Jean-Baptiste, Marie est associée à l'avènement de Jésus. Et là, Luc, non pas corrige, hein, mais j'allais dire, c'est deux regards différents, nous révèle... Hein, puisque la naissance de Jésus et ce qu'en disent les bergers est parallèle à la naissance de Jean-Baptiste. Hein, si vous les mettez en colonne, hein, ça correspond. Et donc, à partir de la circoncision et de la présentation au temple, on rentre précisément dans le, Luc veut nous montrer la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et cette continuité, elle n'est pas d'abord, et c'est ça qui est très beau, pour Saint Luc, elle n'est pas d'abord sous la forme de l'accomplissement des prophéties, comme dans Matthieu. Mais elle est sous la forme de l'obéissance à la loi par Joseph et Marie. C'est-à-dire que Jésus accomplit l'ancienne alliance, j'allais dire en l'assumant complètement. Vous voyez, il n'y a pas un rapport typologique. Ce qu'on appelle un rapport typologique, c'est quand l'ancienne alliance est une préfiguration de la nouvelle. Ce que nous montre, c'est ce qu'on manifeste à travers l'accomplissement des prophéties. Les prophéties annonçaient ceci et il s'est réalisé ceci. Vous voyez, c'est-à-dire que, au fond, l'ancienne alliance sous la forme d'image nous annonce ce qui va se réaliser en réalité dans la nouvelle. C'est le rapport typologique. C'est pas du tout le mode. Ça, c'est ce que fait Saint Matthieu. C'est pas du tout ce que fait Saint Luc. Saint-Luc nous montre comment est-ce qu'à la fois il y a une différence radicale et comment en même temps la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, j'allais dire, elle passe par la circoncision et par la présentation de Jésus au temple. Donc elle passe par un geste concret, par une offrande concrète de Jésus. Alors, c'est clair hein, que pour Saint-Luc, pas pour Marie, mais pour Saint-Luc, c'est clairement en lien avec le mystère de la croix. Puisque c'est l'offrande du Christ sur la croix qui accomplit l'ancienne alliance dans la nouvelle. Et l'offrande du Christ sur la croix, c'est l'offrande du Christ à son Père. Donc c'est l'accomplissement de cet acte qu'accomplit Marie à la présentation au temple. Et j'allais dire, la présentation au temple pour Marie, elle est le premier moment où elle offre Jésus. Selon une initiative de sa part. Le dernier moment où Marie offre Jésus selon une initiative de sa part, c'est quand Jésus est mort. Non, de la part de Marie. J'allais dire, jusque-là, Marie n'a pas pris d'initiative autre que maternelle. Là, elle prend une initiative religieuse, qui est celle d'obéir à la loi. Elle prend l'initiative d'accomplir une liturgie d'offrande de son enfant à l'égard de Dieu. Et j'allais dire cette... Donc il y a quelque chose de nouveau en Marie. J'allais dire, elle... Oui, elle accomplit un geste d'offrande du Christ, de la part du Christ. Enfin, à l'égard du Christ. C'est-à-dire qu'elle accepte, enfin, c'est plus qu'elle accepte. Elle manifeste comment cet enfant appartient d'abord à Dieu avant d'être le sien. Et comment elle désire vivre en respectant cette priorité de l'appartenance de Jésus à Dieu par rapport au fait qu'il est son enfant. Et évidemment, ce qui est très impressionnant, c'est l'annonce de Siméon à l'égard du glaive. Ou si vous voulez, c'est le premier moment, il faudrait le mettre en parallèle avec le massacre des saints innocents dans Saint Matthieu. C'est le premier moment où Jésus est objet de contradiction, enfin est annoncé comme un objet de contradiction, est présenté comme un objet de contradiction, est révélé à Marie comme un objet de contradiction. Quand il est dit, vois cet enfant, est là pour la chute et le relèvement de beaucoup, et pour être un signe en but à la contradiction. Donc Marie accepte, enfin, reçoit la prophétie de cette souffrance dont qu'elle va recevoir en son cœur, à cause de l'épreuve dont son fils est la cause. Et Marie accepte, enfin, il ne nous est pas dit qu'elle accepte. Mais il semble bien, quand on lit de près le texte, qu'au fond, elle elle accepte d'être unie à cette épreuve dont le Christ est la cause. C'est très particulier, si vous voulez, d'accepter dans un cœur de mère qu'un, son enfant, on va être objet de contradiction, que deux, on va être associé à ça. C'est au fond le pour ça que c'est ce qu'on légitimement dit que c'est le premier moment de l'entrée dans les mystères douloureux. C'est-à-dire que c'est le premier moment où la sagesse de Dieu se révèle une sagesse qui regarde le mystère de la souffrance. C'est dans l'initiative la plus généreuse de son cœur de mère, qui est de manifester par la présentation au temple l'offrande de son enfant à Dieu, que Marie est invitée à entrer dans une nouvelle dimension de sa mission, qui est d'être associée au mystère de souffrance qui regarde le Christ, sans qu'elle sache précisément de quoi il s'agit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a toujours deux figures du Messie. Il y a les grandes figures du Messie roi. Et c'est selon ces figures du Messie que l'ange annonce à Marie qu'elle va être l'enfant de Jésus, la mère de Jésus. C'est toutes les prophéties messianiques qui portent sur la royauté du Messie, sur la grandeur du Messie. Et puis il y a l'autre tradition, qui est la tradition du serviteur souffrant, où le Messie est celui qui vient porter le péché des hommes. Et ce qui est très important, impressionnant, c'est que dans Saint-Luc, et dans Saint-Matthieu aussi, si vous vous souvenez bien, la royauté du Christ est manifestée par la présentation aux mages, et Marie est la mère de l'enfant roi. Et ensuite, le mystère du serviteur souffrant, il est manifesté par le massacre des saints innocents. Marie est la mère de l'enfant qui est la cause du massacre de tous les innocents. C'est ça, Marie est la mère de l'enfant qui est l'occasion du massacre des innocents. Bien là, c'est la même chose. À l'Annonciation, Marie est invitée à être la mère de celui qui sera le fils de David et qui siégera sur le trône de David, son père. Donc elle est invitée à être la mère du roi. Et à partir de la présentation au temple, Marie est invitée à être la mère de celui qui sera signe de contradiction. Et Marie, enfin, c'est très bien, je pense que comme elle a une connaissance de l'écriture suffisante, le signe dans le but à la contradiction, c'est les textes d'Isaïe. C'est les lamentations de Jérémie. Vous voyez, il y a un ordre. C'est parce que Marie est associée à, enfin, c'est en passant par le lien entre Marie et Jésus dans la royauté et dans la victoire que Marie peut être associée au mystère de la souffrance et pas l'inverse. Si vous voulez, la finalité du lien entre Jésus et Marie, c'est pas qu'ils coopèrent dans la souffrance. La finalité de l'alliance chrétienne vécu entre le cœur de Marie et le cœur du Christ, c'est une alliance dans la victoire de l'amour, dans la royauté et dans la victoire. Mais ce que nous révèle la prophétie du vieillard Siméon, c'est que cette alliance dans la royauté et dans l'accomplissement de la grandeur de l'œuvre de Dieu, ou dans l'accomplissement des merveilles de Dieu, passe par le mystère de la souffrance. Vous voyez, j'allais dire, c'est extrêmement important pour nous de savoir que ce qui est premier dans notre foi, c'est ce qu'il y a d'ultime, c'est-à-dire le mystère de la gloire. Que le mystère de la souffrance n'est pas recevable dans la vie chrétienne s'il n'est pas reçu à l'intérieur du mystère de la gloire. Si nous ne sommes pas d'abord des victorieux, nous ne saurons jamais vivre du mystère de la croix. Jésus va vers sa passion dans les trois évangiles comme il va vers sa victoire. Ou si vous voulez, la passion, les souffrances et la mort du Christ ne sont pas autre chose que sa victoire. Je crois que c'est ce que, encore une fois, ça n'est pas encore noué dans le cœur de Marie. Vous voyez, c'est comme deux dimensions qui ne sont pas encore unies dans le cœur de Marie. Mais je crois que c'est très important de voir que les deux sont présentes. Et c'est très important de voir que cette révélation de la dimension douloureuse du mystère du Christ, et donc de la dimension douloureuse de la vocation et de la mission de Marie, se fait à l'égard du Christ, lumière des nations. Parce que Marie, elle entend tout ça, elle garde tout ça. Donc ce que Marie reçoit dans son cœur, c'est que la dimension douloureuse du mystère du Christ est liée à la communication de la lumière. Ce qui était déjà vrai dans Isaïe d'ailleurs. Ce qui n'est évidemment pas objet d'une compréhension très poussée, parce que c'est difficile de voir en quoi le fait de porter la souffrance, ça communique la lumière. S'il y a vraiment quelque chose qui ne communique pas du tout la lumière, c'est bien la souffrance comme telle. Donc vous voyez, c'est très impressionnant de voir que c'est sur une initiative de Marie que Dieu l'invite à entrer dans la dimension douloureuse du mystère du Christ. L'ange ne lui a pas laissé le choix. Enfin, il lui a laissé le choix. Disons qu'il lui dit qu'elle va être mère de Dieu. Il répond à son attente en la rendant mère de, enfin, en lui donnant d'être mère de Dieu. Mais il n'y a pas d'attente de Marie à l'égard de la souffrance. Humainement, on attend. Enfin, vous voyez, je veux dire, ça serait complètement malsain d'attendre que l'humanité soit sauvée par la souffrance si on pouvait s'en passer. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'attente de Marie à l'égard de la venue du Messie roi est une attente positive auquel Dieu répond. Mais l'invitation faite par Dieu à la Vierge Marie à entrer dans le mystère de la souffrance est une invitation qui est en réponse à l'initiative de Marie de lui offrir son enfant. C'est dans le temple que ça se noue cette alliance. Vous voyez, j'allais dire, Dieu répond à l'initiative de Marie qui est d'offrir son enfant par un geste de liturgie en l'invitant à entrer dans le mystère de la souffrance de son fils. Je crois que c'est très important de voir qu'elle y est invitée, elle n'y est pas contrainte. Si vous voulez, le fait que Jésus soit le fils de Dieu et qu'il vienne pour nous sauver, on n'a pas le choix, c'est comme ça. J'allais dire que je le veuille ou que je le veuille pas, pourvu que j'y consente, vous voyez, j'en suis l'objet de ce salut. Mais que je découvre dans le mystère de la croix de Jésus une sagesse, ça, c'est pas obligatoire. Ça dépend de moi. Vous voyez, j'allais dire, je serai sauvé en y coopérant simplement par le consentement. Mais je ne découvrirai pas la sagesse de la croix sans accepter d'y entrer gratuitement. Sinon, je subirai la souffrance, ce qui n'est pas entrer dans la sagesse de la croix. Oui, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce que Marie vit, c'est que entrer dans la sagesse de la croix, c'est objet d'une invitation de la part du Christ, ce n'est pas objet d'une obligation. Être sauvé, c'est une obligation, si vous voulez. Je ne veux pas dire que Dieu m'oblige à être sauvé, mais il m'est réclamé de consentir à être sauvé, c'est tout, ça suffit. C'est ma seule coopération, c'est pas grand-chose. Eh bien, le fait que c'est à la réponse de Marie et que c'est sous forme prophétique. Hein, il dit, « Vois, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Ça, c'est pas son choix, elle. « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Mais ça ne détermine pas la manière dont elle va le vivre. De toute façon, une épée lui transpercera l'âme. Mais cette souffrance, est-ce qu'elle va la subir ou la choisir? C'est ça toute la question. Il lui est pas dit, tu devras accepter qu'une épée te transperce l'âme et tu devras l'accepter. Non. J'allais dire, de toute façon, l'épée lui transpercera l'âme du fait même de la souffrance de son enfant. Mais elle a ou à le subir ou à le choisir. Et j'allais dire, la première dimension du réalisme de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans le réalisme de l'incarnation. Mais ce réalisme de l'incarnation, il est fait lui-même pour me faire entrer gratuitement dans une découverte de la sagesse dans le mystère de la croix. Mais je ne peux pas accepter d'entrer dans une découverte de la sagesse de la croix si je ne commence pas par accepter le réalisme de l'incarnation. Vous voyez, j'allais presque dire, si je ne découvre pas le réalisme avec lequel je suis aimé en Jésus, je n'arriverai jamais à choisir librement d'entrer dans la sagesse de la croix. Vous voyez, c'est exactement la même chose humainement. Hein. C'est parce qu'on aime vraiment quelqu'un, enfin, analogiquement, hein, C'est parce qu'on aime vraiment quelqu'un qu'on est capable de le suivre dans la souffrance. De manière telle que l'amour qu'on a à son égard soit plus grand que la souffrance. C'est parfaitement impossible si on ne vit pas d'un vrai lien personnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours que c'est dans l'épreuve qu'on voit les vrais amis. Parce qu'il y a ceux qui vont finir par se détourner de vous parce que la souffrance leur est insupportable. Donc vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, pour que la souffrance soit elle-même vécue par Marie comme une victoire, elle doit entrer dans le mystère de l'incarnation. Et donc c'est le réalisme avec lequel on entre dans le mystère de l'incarnation qui va nous disposer à accepter, à nous disposer, pas nous obliger, nous disposer à accepter d'entrer gratuitement dans la sagesse de la croix ou non. C'est jamais obligatoire, hein, la sagesse de la croix. Jamais. Les apôtres d'ailleurs l'ont bien compris, hein, ils ont choisi de ne pas y être alors. Et je crois que c'est très important. Que je sois sauvé par la croix, ça j'allais dire, j'en ai pas le choix. Hein. Mais que je le vive comme une sagesse, ça ne s'impose pas à moi. Hein. La sagesse, ça ne s'impose jamais. Et je crois que c'est très beau dans cette. Vous voyez, de lire ensuite, vous lirez vous-même, hein, le recouvrement au temple, qui est au fond le deuxième moment où Jésus manifeste, appauvrit Marie en lui révélant comment il y a encore un abîme infini entre tout ce qu'elle, toute la bonne volonté qu'elle met à coopérer au mystère de Jésus et ce qu'est vraiment la volonté du Père sur lui. Très beau ça. Et Jésus révèle à Marie comment il y a encore un abîme infini entre là où elle en est de sa coopération au mystère de Jésus et ce qu'il en est vraiment de sa mission dernière. Marie l'accepte d'ailleurs parfaitement, c'est ce que nous redit le texte qui nous dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Et je crois qu'ensuite il faut lire tout l'évangile de Luc comme ça. Pour découvrir comment est-ce que précisément, j'allais dire, c'est dans cette liberté, vous voyez, j'allais dire, d'entrer dans la sagesse de la croix, mais d'y coopérer de tout son être avec le même réalisme avec lequel elle a coopéré à la maternité du Christ, que Marie choisit de vivre. C'est pour ça que dans la passion, elle n'a pas un centimètre de recul. Et je veux dire, elle y entre avec la même plénitude avec laquelle elle est entrée dans sa maternité. Alors que c'est exactement l'inverse d'une maternité. Rien n'épanouit plus.